Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, on est le 1er janvier et c'est donc le moment parfait pour vous souhaiter une très belle année 2020. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais vous dire pendant cette introduction et surtout comment est-ce que je pouvais l'amener. Je me suis souvenue de Karine De Luca qui dans son interview, c'est l'épisode 24, dit « Quand je suis face à une situation difficile ou que j'ai un peu un choix à faire, je me demande « Et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais ?» Et ça l'aide à se libérer ou se dégager de toutes les choses qui seraient des obstacles à ses souhaits, des choses qu'elle n'ose même pas formuler en se disant que ce ne sera pas possible, et ne serait-ce que de voir ce dont elle a vraiment envie, si on pouvait faire intervenir la magie, de quoi est-ce qu'elle aurait vraiment envie. Et je trouve que c'est une parfaite question aussi à se poser à l'aube de la nouvelle année. Et par rapport à votre vie professionnelle, vous pouvez vous demander « Et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais professionnellement en 2020 ?» Est-ce que vous auriez envie d'écrire un article sur un sujet donné, de faire votre site internet, de changer de collaboration ou d'association? Est-ce que vous auriez envie de vous spécialiser dans un nouveau domaine d'intervention? Ou en tout cas de développer une clientèle dans ce nouveau domaine d'intervention? Bref, juste de quoi est-ce que vous avez envie pour 2020? Aujourd'hui, mon invitée est Maître Anne-Sophie Nourry. Anne-Sophie est avocate au barreau de Paris depuis 2006 et elle intervient en restructuring. Elle est aujourd'hui associée chez Weil, Gostal & Menges et c'est un bel épisode sur un parcours d'association dans un cabinet d'affaires. Comment est-ce qu'on mène une carrière qui nous amène à ce genre de poste et aussi quels sont ses challenges actuellement. Anne-Sophie a eu la grande générosité de se livrer je trouve très sincèrement, et d'être généreuse sur ses recettes qui l'ont menée là où elle est aujourd'hui, et aussi potentiellement sur ses difficultés ou ses points faibles. Et j'espère que cette interview vous plaira. En plus, vous verrez, Anne-Sophie a une très belle voix. Elle a un timbre et une cadence très calme. C'est extrêmement agréable de converser avec elle. C'est assez apaisant. Voilà, la meilleure manière, souvenez-vous, de soutenir Fleurs d'avocat, c'est de mettre plein d'étoiles, 5, sur les applications podcast, et notamment Apple Podcast ou iTunes, et de laisser un avis pour dire à quel point vous aimez Fleurs d'avocat, ce que ça vous apporte au quotidien, d'en parler autour de vous, de partager l'épisode de vive voix ou sur les réseaux sociaux, et bien évidemment de me recommander un avocat épanoui que vous connaissez et qui vous inspire, je le recevrai avec grand plaisir sur le podcast. Je vous souhaite une belle année 2020 et aussi une bonne écoute. À la semaine prochaine. Bonjour Anne-Sophie Nourry.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Alors Anne-Sophie, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors, je suis devenue avocate par hasard. J'ai fait d'abord une prépa et HEC pour faire plaisir à mon papa, comme beaucoup de filles qui ont envie de faire plaisir à leur papa. Une fois que ça s'était fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose que dont moi j'avais envie. Et en fait, j'ai découvert le droit par hasard à HEC parce que les matières que j'étudiais à HEC m'épanouissait pas plus que ça. J'ai fait du droit au départ pour la gymnastique intellectuelle que ça pouvait générer. Voilà, j'aimais bien les maths, j'aimais bien tout ce qui me paraissait un peu scientifique et le droit correspondait pas mal à ça. Et en fait, j'ai fait un stage par hasard et où j'ai découvert une profession qui me passionnait.
Donc en fait, il y avait un module de droit à HEC.
Alors, en fait, à HEC, on proposait en première et en deuxième année pour les élèves qui voulaient un accord avec Sceaux, la fac de Sceaux qui était juste à côté. Et en fait, on avait des modules de cours qui étaient adaptés à nos horaires et qui permettaient à la fois de faire HEC et à la fois de faire du droit. Donc au début, j'ai vraiment fait ça pour voilà, pour avoir un peu de nourriture intellectuelle, parce que quand même, vous passez de la prépa où vous faites de la philo, l'histoire géo, des maths, enfin, on exige beaucoup de vous et on apprend beaucoup de choses. Ah, alors HEC, on a, je dis pas qu'on n'apprend pas des choses, mais c'est très différent. C'est voilà, étudier ou savoir écrire un compte de résultat, un bilan, la théorie des organisations, le marketing. Tant qu'on n'a pas eu d'expérience professionnelle, en fait, tout ça paraît très théorique et très pipeau. Alors, ce qui n'est pas vrai, mais passer des matières très intellectuelles à des matières très pratiques sans avoir eu une expérience au milieu. Qui nous explique en fait l'intérêt de ce qu'on apprend, c'est y a un gros gros écart. Alors que bah, le droit, ça reste une matière très intellectuelle, et donc ça me permettait de continuer à m'abreuver après 2 ans de prépa où voilà, où c'était intellectuellement très très enrichissant.
Et donc voilà. ce stage,
c'était un stage chez Gide qui de 3 mois, donc c'était très court. Mais où j'étais dans le bureau d'un avocat et qui, à chaque fois qu'il avait des questions, c'était avant tout des recherches, hein, comme beaucoup de jeunes stagiaires, on commence d'abord par les recherches, et qui était sympa avec moi, qui m'a appris plein de choses, et puis voilà, c'était le fait de réfléchir et d'avoir un métier dans lequel on réfléchissait sans arrêt. Alors je dis pas qu'on réfléchit pas dans les autres métiers, bien sûr. Mais voilà.
En tout cas, c'était une réflexion qui vous stimulait
énormément. Ouais.
Et c'était un stage déjà en droit des sociétés, enfin, plutôt à faire.
C'était en M&A, effectivement, et c'était en M&A. Et après, le restructuring, c'est venu après, pareil, par hasard.
Par hasard. On va y venir. Donc, ce premier stage, c'était à quel niveau de vos études, à quel
Alors, c'était en majeur stratégie juridique et fiscale. Okay. Alors j'avais fait un stage d'avocat avant, mais j'avais été moins impliquée par les avocats pour lesquels je travaillais. J'étais très jeune aussi, donc j'imagine bien que j'avais pas une grande valeur ajoutée pour eux. Je savais pas grand chose, mais là j'étais voilà dans le bureau de l'avocat, j'étais un peu plus mature parce que j'avais 23-24 ans, donc j'avais un peu plus d'apport que je ne pouvais en avoir à 20 ou 21 ans quand j'ai commencé.
Et donc ça, c'est ce qui a un peu marqué le fait de vous dire que ce métier vous plaisait au point de vouloir en faire potentiellement votre profession.
Okay. Ça a été un tournant.
Donc CRFPA, enfin...
Ouais. Voilà, cette majeure en stratégie juridique et fiscale, plus ce stage qui m'a vraiment déterminée. J'ai passé le CRFPA, j'ai fini en juin 2004. 2004. J'ai passé le CRFPA en septembre 2004 que j'ai eu. Donc j'ai commencé mes études à l'EFB en janvier 2005 et en parallèle de septembre 2004 à juin 2005, j'ai fait un DEA droit des affaires avec le professeur Saint-Zay. Voilà.
L'idée c'était de, parce que je suppose qu'à Sceaux, vous étiez sortie de Sceaux avec une maîtrise quand même de droit. Enfin, c'était vraiment un double considéré comme un double cursus.
Non, on avait beaucoup de chance à HEC. J'ai eu le DUG à l'époque. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, Master 1, je sais plus. Enfin, j'ai eu le DUG à l'époque, mais j'ai pas eu ni licence ni maîtrise. En fait, je suis passée directement du DUG au DESS. Qui est effectivement une des ponts qui était favorisée, donc ça m'a épargné 2 ans d'études.
Ouais.
Mais à la fois ces 2 ans d'études, ça n'empêche que ça reste précieux. C'est pour ça que j'ai voulu compléter ensuite mes études via un DEA droit des affaires pour essayer de rattraper dans la mesure du possible ce que des étudiants ont étudié en 2 ans. Évidemment, moi je pouvais pas le rattraper en 3 jours, ouais. Ça va de soi. Donc c'était pour compléter, pour voilà.
Et comment vous vous projetiez à ce moment-là dans la carrière, en tout cas dans le métier ?
J'étais très court-termiste. C'était uniquement l'épanouissement intellectuel hein, que je cherchais. Est-ce que je serais, Non, c'était très court.
Mais c'est déjà bien de dire je recherchais l'épanouissement intellectuel.
C'était uniquement ça. Est-ce que je serais un grand, un moyen, un petit avocat, riche, pas riche, pauvre, c'était absolument pas ma considération. Ma considération, c'était juste l'épanouissement intellectuel et le fait que tous les jours on apprenait, et épanouissement que j'avais fait des stages en audit, j'avais fait des stages en marketing, j'ai fait des stages dans des ambassades, voilà. Ce que j'ai trouvé dans un cabinet, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs.
Ouais. Et justement, votre épanouissement intellectuel, du coup, comment vous l'avez recherché au stade de vos recherches de stage, après, enfin, quand ça s'est déterminé vers le droit et vers la profession d'avocat, quand vous avez choisi les cabinets, enfin, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait vos choix?
Mon choix de cabinet, c'est ça?
Ouais, et ouais. D'orientation, enfin.
Alors.
Sur la base de cette recherche d'épanouissement intellectuel.
Oui. On va être très honnête, je pense que je connaissais pas grand chose, hein, comme une toute personne qui sort bien formatée, d'une bonne éducation, d'une bonne école. On réfléchit pas forcément au-delà des limites, hein, en tout cas c'était mon cas. Et le droit des affaires, c'était quelque part logique par rapport à mon parcours. En réalité, ce qui se présentait à moi, c'était soit du droit fiscal, soit du droit des affaires. Donc j'avais eu un DESS en fiscalité internationale. Ça aurait été plus logique de faire de la fiscalité, mais néanmoins, à nouveau en termes d'épanouissement intellectuel, ça me paraissait plus riche de faire du droit des sociétés que de faire du droit fiscal. Et à nouveau, je critique pas mes confrères qui font du droit fiscal.
Ah non, c'est vraiment, tout ça est très personnel.
C'est très personnel.
C'est juste pour vous.
Voilà, c'est juste pour moi. Donc voilà, mon champ des possibles vu par moi, c'était soit du M&A, soit du taxe. J'ai préféré faire du M&A parce que je trouvais ça plus marrant et plus au cœur du réacteur que le droit fiscal, qui est quand même une résultante que le cœur d'une opération. L'opération, la structure pour tenir compte des aspects de taxes, mais on ne la fait pas pour des raisons de taxes. Voilà. Donc, le cœur de la décision, il est quand même autour d'une acquisition, d'une vente, voilà, d'une opération, que de ces aspects fiscaux qui sont le paquet cadeau pour rendre le cadeau, le paquet le plus joli possible. Donc voilà, donc c'était sur le choix des cabinets, c'est pareil, je connaissais très 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 peu de choses. Simplement, on avait des cabinets qui venaient nous voir en majeur, qui nous faisaient des cours. Parmi ceux qui nous faisaient des cours, il y avait Linklaters. Et après, voilà, c'est des gens que vous rencontrez et que vous trouvez juste sympa. Enfin, je ne connaissais rien. Voilà.
Non, mais c'est bien de le dire. Ouais.
Voilà, je connaissais rien. Je vois juste des personnes avec qui je me dis, voilà, ces gens-là, ils me font envie. Moi, de toute façon, dans la vie, moi, j'ai besoin de deux choses, l'épanouissement intellectuel et des gens qui m'inspirent. Et qui m'inspirent, que je trouve agréable, qui me donnent envie d'aller de l'avant. Et chez Linklaters, les personnes que j'avais rencontrées et qui m'avaient fait cours m'insufflaient ça.
Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui chez elle vous insufflait ça? Vous vous souvenez?
Ça commence à être vieux maintenant.
Bah oui, mais.
Ça commence à être vieux. L'enthousiasme. Moi, j'ai besoin d'enthousiasme. L'envie partagée, le plaisir partagé. Pas des gens qui subissent leur vie, mais qui en jouissent, quoi. Et trouvent du plaisir dans leur vie. Et chez eux, il y avait ce plaisir de leur métier, ce plaisir de rencontrer les autres, ce plaisir de le partager. Ceux que j'avais rencontrés, c'était des partenaires avec 5, 10 ans de carrière en tant que partenaire, plus qu'ils avaient fait en tant que collaborateurs. Donc, ils auraient pu se dire, voilà, elle a 24 ans, elle connaît rien à la vie, elle sait rien de chez rien, ce qui était vrai. Je m'intéresse pas forcément à elle, ce qui n'était pas leur cas. Voilà, il y avait un vrai intérêt des gens. Mmh. Donc voilà.
C'est pour ça que vous avez présenté une candidature et que.
Exactement.
Donc vous avez été reçue.
Exactement.
Je comprends.
À l'inverse, peut-être pour vous donner un contre-exemple, Au forum EFV, j'avais rencontré quelqu'un d'un cabinet anglo-saxon, je dirais la marque, mais qui m'avait dit, bah, c'est simple, on est des putes de luxe. Donc, voilà, ton métier, ce sera d'être une pute. Donc, je me suis dit, bah, toi, j'ai jamais envie de travailler chez toi, en fait. Quelle que soit la véracité ou pas de ces termes, peu importe, c'est en tout cas comme ça qu'il voyait sa vie. Et voilà. A contrario, c'est le type de personne avec lequel je me suis dit, j'ai jamais envie de travailler avec toi.
Mmh. Non, c'est une bonne illustration.
Voilà.
Donc, vous rejoignez Linklaters.
Voilà.
C'était un stage final, c'était...
C'était... Non. En fait, c'était ma première collaboration. En fait, à part ce stage chez Gide qui a vraiment fait tout basculer, je n'ai fait aucun stage avant. Aucun stage avant, donc je ne connaissais rien du tout. J'ai pas fait mes stages à l'EFB, j'ai menti, je faisais autre chose. J'ai menti, j'avais.
Alors, qu'est-ce que vous faisiez?
Rien.
Mais non, rien. Mais du coup, ça m'intéresse.
c'est une époque très, très particulière dans ma vie où j'avais besoin de ne rien faire.
Mm-hmm.
Voilà. C'était pas par fainéantise, parce que s'il y a bien quelque chose qui me caractérise pas, c'est bien ça. J'avais besoin de ne rien faire.
Et d'où venait ce besoin?
Une épreuve personnelle qui faisait que, voilà, je pouvais pas faire autre chose.
Ouais. Et ça, ça vous a fait du bien de faire cette pause qui a duré, du coup?
Ça a duré un an.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai, pendant un an à l'EFB, j'ai étudié à la fac. Et j'ai fumé des clopes à la cafette avec mes copines de l'EMP. J'ai rien fait du tout. Mais voilà, ça fait du bien aussi de ne rien faire, de faire autre chose, quoi.
Du coup, vous vous sentiez prête après?
Du coup, je me sentais prête. Et du coup, il y avait un petit écart avec mes autres copains qui étaient surpréparés parce qu'ils avaient fait... quand je vois tous les jeunes qui ont... pendant presque 2 ans, hein, ils n'ont fait que des stages, ils n'ont fait que travailler... Ils arrivent déjà assez fatigués parce qu'en fait, ils n'ont eu aucune pause. C'est bien de ne rien faire. C'est très bien.
Mmh.
Voilà. Après, la vie ne nous offre pas toujours ce loisir-là. Donc, voilà. Je ne regrette pas du tout cette période.
Ouais.
Et un petit temps de ramp-up, hein, parce que mes camarades étaient beaucoup plus préparés que je ne l'étais. Donc, par exemple, je me souviens de la première semaine, on parle de SPA. SPA. Alors, je faisais semblant parce que je ne voulais pas dire que je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai googlisé sans jamais savoir ce que ça voulait dire jusqu'à ce que quelqu'un dise bah, le Share Purchase Agreement. Elle fait OK, j'ai compris. Voilà. Il y a un petit temps de. Voilà.
Les codes, en fait. Les codes un peu communs d'une
Exactement.
Matière. Et est-ce que. Du coup, en cherchant une collab, sachant que vous aviez un peu triché pendant l'EFB pour faire cette pause, ça vous a causé peut-être des soucis de confiance en vous au moment de la recherche, de vous dire est-ce que...
Oh non. J'étais d'une naïveté totale. Totale. Il n'y avait ni sous-évaluation ni surévaluation. Je me disais pas, je suis la plus forte, je suis la moins forte. Il y avait pas du tout cette appréciation voilà, est-ce que je suis moins bien, mieux que les autres. Ça n'avait aucune espèce d'importance. C'est juste, bah voilà, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis, voilà ce dont j'ai envie, voilà ce qui me plaît, voilà pourquoi j'aime bien ce métier. Voilà, j'ai pas dit que j'avais menti hein, sur le stage, mais
non. Mais et du coup, comment vous avez présenté?
Alors, par exemple, ceux aussi que j'ai barré de la liste immédiatement, ça faisait partie c'était un autre cabinet qui m'a dit, mais ce que j'avais menti sur un stage que j'avais fait chez un copain, qui était un peu plus âgé que moi, donc qui était déjà avocat, et qui m'avait dit, mais ça fait vraiment tache sur votre CV, vous avez Gide, vous avez fait HEC, le parcours royal, gna gna gna, et là vous avez... un parcours dans un cabinet tout petit chez Nobody. Franchement, c'est une erreur de parcours. Bah, ceux-là, c'est pareil. Je les ai éliminés parce que j'avais trouvé ça très prétentieux de déconsidérer des gens, surtout que, au-delà du fait que c'était mon ami, c'est un très bon avocat, qui a fait un choix d'indépendance, qui a fait un choix de vie, de ne pas vouloir être dans une méga structure, hyper, avec plein de paillettes, etc. Donc voilà, donc, tous les gens qui ont dévalorisé ça étaient des gens que j'ai immédiatement supprimé de ma liste.
Ce que j'entends, c'est que vous étiez très forte quand même déjà sur vos valeurs et ce que vous cherchiez.
Très naïve.
Moi, je trouve que c'est de la force. Enfin, du coup, tout est une question de perspective, mais je trouve ça fort à 25 ans. En plus, alors qu'on vient de traverser une période personnelle difficile, de se dire, un tel qui me présente ça comme de l'escorte, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et puis, un tel qui dénigre tel type d'exercice... de pas vous dire oh là là effectivement
j'aurais dû,
mais de vous dire en fait de toute façon manifestement on réfléchit pas pareil et donc je n'ai pas envie de travailler avec vous, enfin je trouve que c'est très fort.
C'était plus facile vu de ma fenêtre parce que par ailleurs il y avait des gens, enfin Linklater, je les ai vus une fois, ils m'ont fait une proposition alors que j'avais pas fait de stage. Quand moi j'ai commencé il y a 15 ans maintenant, enfin 14 ans, le marché n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours plus facile d'avoir de la confiance et quand on est dans une position, on a plus de choix. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui ont un LLM, qui ont HEC, qui ont fait 15 stages dans les meilleurs cabinets et qui continuent de se bagarrer pour avoir des collaborations, c'est plus difficile pour eux. Moi c'était plus facile, donc peut-être qu'il y avait une force ou une naïveté, un peu des deux probablement, de pas mesurer en fait les enjeux, juste d'être voilà, c'est moi avec mes plus mes moins, mais c'était plus facile à mon époque. Aujourd'hui, je vous dis, tous les gens dépensent 50 000, 60 000 dollars pour avoir HEC ou ESSEC ou SCP, le LLM, tout ça. Ils dépensent des sommes folles et ils sont nombreux à avoir tout ça.
Mais du coup, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un serpent qui se mord la queue parce que finalement, ils ont tous la même chose qui vaut très cher mais qui ne les distingue pas?
Non.
Et c'est vrai que c'est quelque chose dont parle Éric Morin dans son interview où il dit moi, je reçois des très beaux CV, mais c'est les mêmes en fait. Je suis incapable de faire la différence. Donc finalement, oui, il y a une histoire de compétition, et sûrement le marché n'est pas le même qu'il y a 15 ans, etc. Mais est-ce que le tips, enfin je veux dire, de toute façon, le grain de sel n'est pas le même qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire comment ne pas juste être un clone, quoi. Et peut-être, mon hypothèse, c'est que finalement, vous deviez renvoyer quelque chose où ils se sont dit en fait elle va pas juste être comme tout le monde, ou vous avez peut-être dû renvoyer ça, je sais pas.
Peut-être je me suis pas mise dans leurs chaussures, mais c'est sûr qu'aujourd'hui moi à l'inverse et pourtant HEC prépa y a un peu d'élitisme à la française, mais néanmoins c'est vrai que quand on reçoit moi je reçois des CV cloniens, je regarde autre chose. Leurs activités, leurs associations, les thèmes sur lesquels ils ont travaillé, enfin quelque chose qui les distingue, les sports qu'ils ont pu faire, enfin peu importe, mais quelque chose qui distingue la personne, qui dit que elle a pas fait juste quelque chose pour pour cocher une case, parce que je trouve en fait il y a rien de pire que la sélection par l'argent, parce qu'à la fin ceux qui ont les moyens ou la banque va pouvoir leur prêter sont ceux-là qui pourront aligner ces lignes sur leur CV, et ceux qui ont un milieu plus modeste, qui peuvent pas, pour plein de raisons, moi avant tout, au-delà de l'aspect clonien, c'est la sélection par l'argent qui me gêne.
Ouais, mais du coup est-ce que, c'est bien, c'est l'occasion de poser cette question, mais quand vous recevez ces CV, est-ce que vous arrivez aussi à recevoir en entretien des personnes qui n'ont pas cette base-là ?
Bien sûr. Et pour être honnête, de ceux que j'ai pu avoir... Alors après, il y a beaucoup de gens ici qui ont fait HEC qui sont des gens topissime et enfin c'est pas non plus à contrario.
Encore une fois, c'est pas du dénigrement de.
Non. Ouais. Non, non, non. Mais en tout cas, de ceux que j'ai pu voir en tant qu'associée sur les 3 dernières années, ceux qui se démarquent le plus sont ceux qui n'avaient fait ni HEC, ni LLM, tout ça. Enfin, j'en ai 2 en tête, et les 2 n'avaient pas fait de super école. C'était juste des gens solides, rigoureux, sympathiques, avec qui on avait envie de passer du temps. Mmh.
Pour en revenir à votre parcours, donc première collaboration chez Linklaters, comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? Alors,
donc vous arrivez en M&A ?
En M&A, mmh. Exactement. Alors, chez Linklaters, il y a ce qu'ils appellent les sites, où vous faites 6 mois dans un département, à peu près 6 mois dans un autre. Les 6 mois que vous passez dans le second département, c'est censé être un apprentissage, mais vous n'êtes pas censé y rester. C'est voilà pour découvrir autre chose, une autre façon de penser, etc. Donc moi, j'ai commencé 6 mois à M&A, qui était le département dans lequel je devais rester, et 6 mois en restructuring. Les 6 premiers mois, comme moi, j'avais aucune expérience praticienne, que cette expérience de stage chez Gide, qui était avant tout théorique, de recherche, ça n'a pas été facile. Pas été facile du tout. J'étais dans le bureau de quelqu'un qui est aujourd'hui mon associé et que j'aime beaucoup, mais qui est très très exigeante. Et donc, étant partie de zéro, avec zéro expérience, et face à quelqu'un qui était très exigeant, ça n'a pas été facile du tout. Après, elle a été pour moi, cette femme, l'école de la rigueur, de vraiment de l'envie de pousser jusqu'au bout et qu'on ait un service le plus précis, le plus excellent possible aux clients. Voilà, mais fallait se mettre à la page, ce qui n'a pas été évident du tout. Mais c'était l'expérience la plus marquante que j'ai pu avoir en termes d'exigence.
Et qu'est-ce que du coup pendant ces mois difficiles, qu'est-ce qui vous raccrochait ? Enfin, comment vous viviez ça ?
Comment je bah à la fois c'était difficile parce que je voyais bien que j'avais beaucoup beaucoup de marge de progression, mais à la fois cet amour du métier ne m'a jamais quittée, quoi. Ça c'est voilà, c'était difficile, je me prenais des bûches, c'était loin d'être parfait, mais j'ai toujours aimé ce métier et cette envie du métier m'a jamais quittée. Donc voilà, hein, c'est comme le sportif, il a l'entraînement, parfois il en a ras-le-bol, parfois c'est très dur, parfois il n'est pas en forme, parfois il a envie de tout quitter. Mais voilà, il y a quelque chose qui surplombe tout ça, de l'envie de se dépasser, de d'y arriver. Ça m'a jamais quitté.
Donc on en revient à vous aimiez ce que vous appreniez, vous
aimiez... Ouais. Ouais.
Aussi bête que ça. Ouais.
Ouais.
Et ensuite, donc, les 6 mois en restructuring.
Voilà, 6 mois en restructuring. J'avais envie de faire du contentieux, ce que j'en avais jamais fait. Et comme je n'avais rien fait du tout, d'ailleurs.
On a bien compris.
Voilà. Et en fait, j'ai découvert une toute autre facette du droit. Parce que autant le M&A, c'était très précis, très rigoureux, mais le restructuring me permettait de faire du financement, de faire du restructuring, de faire du M&A, de plaider, de faire du transactionnel, d'utiliser les connaissances que j'avais acquises à HEC pour comprendre ce que c'était qu'un compte de résultat, comprendre ce que c'était qu'un bilan, comprendre ce que c'était des prévisions de trésorerie. Donc, j'ai adoré la transversalité de la matière. Et puis aussi la très forte proximité qu'on peut avoir avec un client. Enfin, c'est comme un médecin Enfin, une boîte malade, elle vient vous voir quand elle est malade. Elle a besoin d'un médecin, elle se repose sur son médecin, elle lui fait confiance, elle se livre beaucoup plus que, je sais pas, un avocat en M&A, il est, alors, je sais pas si l'image est très bonne, mais vous allez même, je sais pas, dans une bijouterie, ok, voilà, pour avoir une image, parce que j'allais sur le terrain de la boucherie, mais c'est pas la même. Vous allez chez un bijoutier. Vous lui dites je veux une bague avec un diamant X carat qui ressemble à ça, etc. Le bijoutier, il va vous présenter des modèles et vous dire vous avez ça, ça, ça. Peut-être qu'il va vous présenter d'autres modèles. Il va dire finalement, vous, je pense que vous aimez plutôt le saphir au diamant. Bref, vous prenez votre bague, vous l'achetez ou pas, enfin en fonction de vos moyens. Et puis voilà. C'est un service d'excellence. Mais vous n'allez pas vous souvenir de votre bijoutier, de votre joaillier, de voilà, vous vous souviendrez juste de la bague que vous avez achetée. Et en M&A, c'est ça, vous souviendrez de l'opération que vous avez faite, de la précision, du calendrier respecté, de la précision des conseils, parce qu'en fait, il vous a dit acheter un saphir plutôt qu'un diamant, et qu'en fait, c'était vraiment ça que vous vouliez. Mais il ne se souviendra pas de son bijoutier. Il se dira, bah voilà, j'ai acheté la bague, ou le collier, peu importe. Un avocat en M&A, un avocat en restructuring, vous vous souviendrez du service, mais aussi de la personne, du temps qu'il a pu consacrer, de sa patience, de sa persévérance, du fait qu'il vous a tiré d'une position délicate. Alors oui, vous aurez plus jamais envie d'aller le voir, parce que le médecin, vous avez envie d'être guéri et que plus jamais vous soyez malade. Mais vous savez quand même qu'un jour vous pourrez encore être malade et vous souviendrez à nouveau de la personne. Et c'est ça qui m'a plu. C'est la relation au client et la transversalité de la matière.
Mmh. Et donc, la transversalité de la matière, j'imagine assez rapidement comment est-ce qu'en tout début de collaboration, on peut y être confronté. En revanche, le rapport avec le client, quand on débute collaboration et qu'en plus on est dans un cabinet comme Linklater, donc une grosse structure, etc. Ce que je comprends, c'est que finalement, même dans ces 6 mois, vous avez pu le toucher, ça, du doigt.
Oui, alors ça dépendait des dossiers. Pour certains dossiers, c'était vraiment le sujet des associés qui le traitaient et que j'étais en sous-main, c'est logique hein, pour un collaborateur qui est tout jeune. Mais sur quelques dossiers, effectivement, j'étais en direct avec le client. Et la raison pour laquelle je suis partie de chez Linklater, c'était aussi pour rejoindre Wild, et c'est là où j'ai vraiment découvert cette relation. Enfin, c'est le propre de Wild de donner énormément d'autonomie à ses collaborateurs. Alors, ce qui est abyssal, hein, parce que on a un peu le nœud au ventre quand il s'agit de prendre des risques, de donner des conseils. C'est écrit nulle part, hein, ni dans le Lecor, ni dans le Lefebvre, nulle part. Mais c'est l'aspect complémentaire que j'ai effectivement le plus touché du doigt chez Wild que je n'ai touché chez Linklater, même si j'ai commencé à le comprendre chez Linklater, mais c'était très affirmé.
Et donc, finalement, à l'issue de ces 6 mois en restructuring chez Linklater, vous vous dites, en fait, le M&A, non, je reste en restructuring.
Exactement.
C'était pas prévu.
Mais
coup de cœur pour cette matière et donc j'y reste. Vous êtes resté combien de temps chez Linklater?
Chez Linklater, je suis restée de décembre 2005 à septembre 2008. Donc à peu près trois ans.
Ouais. Voilà. Et par rapport à ce que vous aviez senti avec cette personne vous avez quand même été attiré chez Linklater par cette rencontre d'une personne qui vous avait inspiré et vous vous êtes dit du coup potentiellement c'est une maison dans laquelle je me projette et puis en plus voilà la manière dont vous avez été reçu en entretien etc. Ça avait rempli ses promesses.
Complètement.
Ouais.
Ah oui, complètement. C'est, en restructuring, ça peut être des tensions. Il peut y avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Et le partenaire, enfin l'un des deux partenaires, l'un est parti, mais l'autre est toujours là. Il prenait les choses toujours avec beaucoup d'humour. ce qui permettait de relâcher un peu la pression, et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Enfin, rien n'était grave. Et d'ailleurs, il a raison. À la fin, c'est pas le médecin, il n'y a pas quelqu'un qui meurt, hein. Il peut y avoir une entreprise qui meurt, mais voilà, il était, oui, il a rempli les promesses. Il était très, très naturel et il prenait les choses avec, avec beaucoup de hauteur, ce qui est nécessaire dans un métier où il peut y avoir beaucoup de tension.
Mmh. Et donc, vous êtes partie parce que vous avez cherché à partir ou parce qu'on est venu vous chercher? Comment ça s'est passé?
J'ai cherché à partir. Non, on n'est pas venu plus que ça à ma rencontre. C'est moi qui ai cherché à partir parce que à l'époque, Linklater, c'était le département restructuring était un département qui se créait. Je suis arrivée en fait, Aymar et Cécile venaient de rejoindre Linklater. Ils montaient une practice et c'est normal, hein, comme toute practice que l'on monte, bah il y a des débuts où on fait beaucoup de marketing. Où on n'a pas encore des tonnes de dossiers, on en a, ils en avaient, mais pas au point de pouvoir à la fois nourrir eux-mêmes et leurs collaborateurs. Et sur certains dossiers, j'étais beaucoup en backup, beaucoup dans un mode recherche. Et je me suis dit, ça dépendait des dossiers à nouveau. Certains j'étais très impliquée et d'autres, voilà, vraiment très en retrait. Et je me suis dit, je veux mettre les mains dans le cambouis, je veux être confrontée au réel, quoi. Et chez Linklater, du fait de la création qui était en cours, et c'était pas eux leur mode de management qui était de m'écarter, c'est juste, enfin, lié aux circonstances. Mm-hmm. Mais moi, ça m'allait pas. Donc je voulais quelque chose de beaucoup plus pratique. Et je me suis dit, quitte à faire du restructuring, parce que c'est ça que je veux faire. Bah, pourquoi j'irais pas chez les meilleurs? Et les meilleurs à l'époque, c'était Walgochal. Mmh. Voilà.
Et donc, vous envoyez un CV, ça se passe bien. Vous avez candidaté ailleurs ou pas?
Non.
Non.
Non. Je voulais pas partir pour partir parce que c'était des gens bien, c'était un bon cabinet avec des gens avec lesquels je m'entendais bien. Les gens qui partent pour partir, c'est une mauvaise décision. Il faut avoir envie de partir, c'est vrai, mais avoir envie de rejoindre un endroit. Donc non, moi j'ai déposé mon CV chez eux, ils m'auraient pas pris, j'aurais continué.
Ouais, c'est intéressant ça. Enfin, je trouve.
Il faut pas partir pour partir, ça sert à rien. Il faut pas partir pour un dégoût. Il faut partir pour une envie. C'est l'envie qui guide les gens.
Mm. Et donc, vous rejoignez Vail. Ça s'est fait rapidement?
Non, ça a mis du temps.
Ouais.
Ça a mis du temps. J'ai postulé en janvier et je suis rentrée chez eux en septembre. Et d'ailleurs, celle qui m'a aidée, qui a poussé ma candidature, c'était celle dont je vous ai parlé au début.
Ouais. Avec qui était en M&A.
En M&A, qui les a rejoints ici. Mm-hmm. Donc, je l'ai appelée plusieurs fois en disant « Alors, on en est où ?» Et puis, elle m'a donné un bon coup de pouce. Et ils ont fini par me recevoir. C'était quoi? C'était 15 jours avant d'accoucher, avec un ventre comme ça.
C'était votre premier enfant?
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà. Et donc, en mai, ils m'ont laissé tranquillement avoir mon bébé. Et je les ai rejoints quand mon bébé avait quelques mois.
Ouais. Il y a plein de choses intéressantes là, dans ce que vous dites. La première, c'est... Du coup, vous avez suivi cette première personne avec qui vous aviez travaillé et vous n'avez pas hésité à revenir vers elle, ouais. Changer. Enfin, non, mais je le souligne parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui sont des nœuds au cerveau à propos de ça, qui n'osent pas.
C'est vrai.
Ouais.
Pourquoi?
Ben moi, je rencontre qui se disent, par exemple, qu'aurait pu se dire si je fais des transpositions par rapport à des discussions que j'ai pu avoir avec des jeunes avocats qui peuvent se dire « Ah oui, mais j'avais pas voulu travailler avec elle à l'époque, j'avais préféré un autre département. » Donc, ça peut nourrir une forme de culpabilité ou de honte. Enfin, voilà, mille raisons, mais pas forcément...
Je comprends.
Après, ils se disent... qu'est-ce que la personne va penser de moi si je lui envoie un CV? Est-ce qu'elle va penser que c'est opportuniste? Vous voyez? Alors que, ben voilà.
En fait, tout dépend. comment on fait les choses. Si au moment où j'ai pris ma décision de pas revenir dans son département, je ne lui avais pas parlé, je ne lui avais pas expliqué et que j'étais partie sur une mauvaise situation avec un non-dit, avec une absence de dialogue, c'est sûr que après, parce que ça m'intéressait, parce que j'en avais besoin, revenir toquer à la porte en disant une première fois, je t'ai négligée. Et maintenant que j'ai besoin de toi, je reviens vers toi, c'est sûr que j'aurais pas été très à l'aise, hein, mais comme personne n'aurait été à l'aise. Si en revanche, comme ça s'est passé, on a un dialogue, on explique, on dit, bah voilà, c'est pas contre toi, c'est pas toi, je continue à beaucoup t'apprécier, même si t'es pas facile, mais je continue à beaucoup t'apprécier, humainement, professionnellement, mais il y a autre chose qui me motive. Il n'y a pas de raison que la personne le prenne personnellement. Puisque je lui ai dit que ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre elle, c'est juste parce que c'est moi. Il n'y a pas de raison de pas d'être dans une situation de gêne. Voilà.
La deuxième chose, c'est que vous avez insisté.
Oui.
C'est-à-dire que vous n'avez pas juste envoyé un CV en vous disant ben, « j'ai pas de retour, donc… » Voilà, vous avez insisté. Et la troisième, c'est quand même cette grossesse.
Ouais, bah c'est normal.
Non, mais c'est normal, c'est la vie. Mais vous connaissez la profession d'avocat comme moi et ses mythes. Et aussi tout ce qui tourne autour de la femme dans les cabinets d'affaires et la possibilité d'avoir une vie de famille et toutes les difficultés que rencontrent des avocates qui sont liées à leur grossesse. Vous, il se trouve que vous avez quand même fait le mouvement d'un gros cabinet à un autre gros cabinet, enfin, en tout cas, enfin, voilà, de ce type de structure, en étant reçue en entretien enceinte jusqu'au cou, et ça ne vous a pas empêché de rejoindre l'équipe. Enfin, ça, en tout cas, ça n'a pas été un sujet, quoi.
Non, mais c'est la vie. Enfin, je ne me suis, enfin, vous allez dire, elle se pose jamais de questions, mais c'est pas faux. J'avais envie et j'ai toujours envie d'avoir ma vie professionnelle. J'avais envie d'avoir mon mari, mes enfants, ma vie de famille. Et après, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui est très très présent. Donc c'est sûr que par rapport à d'autres personnes où le mari travaille beaucoup. Et bah, il faut bien qu'il y ait au moins l'un des deux qui soit présent auprès des enfants. On ne peut pas les laisser tout seuls, livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas des mini-adultes. Hein. Donc, moi, j'ai cette chance-là, mais ce n'est pas une maladie, quoi. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie, elle est faite d'un travail, d'amis, d'amour, d'enfants, de... Et à nouveau, s'ils m'avaient dit « on ne te prend pas parce que tu es enceinte », ce qu'ils n'ont jamais, jamais fait, jamais, bah, j'aurais dit « mais c'est des nazes ». Enfin, je... Voilà. Alors, ce n'est pas encore le cas dans mon équipe, mais la première personne collaboratrice, collaborateur qui me dira... alors, collaboratrice, parce qu'elle, physiquement, elle porte ce bébé. J'ai besoin de me reposer, j'ai un bébé, j'ai... Super, c'est la vie quoi. Voilà. Alors oui, c'est pas évident. Oui, ça suppose de l'organisation. Oui, voilà, c'est pas idéal. Mais enfin, voilà, c'est comme ça quoi. C'est la vie. Cinq mois dans une vie, c'est rien. On va travailler pendant 30 ans, 35 ans, 40. C'est 4 mois. C'est rien.
Et donc, vous rejoignez Veil.
Oui.
Et double montée en compétences, parce que à la fois, vous venez ici aussi pour vraiment mettre les mains dans le cambouis, que vous aviez l'impression de ne pas avoir assez fait, ou voilà, que c'était trop aléatoire chez Linklaters. Et en plus, montée en compétences de ben, être avocate en étant une jeune maman, c'est aussi une... Enfin, déjà, être une jeune maman, c'est une montée en compétences en soi.
Oui.
Donc, double montée en compétences. Oui. Comment ça se passe?
Comment ça se passe? Alors, avec mon mari, on s'était organisé où en fait on rentrait un soir sur deux. Un soir c'était lui qui rentrait, un soir c'était moi qui rentrais, et voilà. Et donc tous les soirs, ils avaient, enfin à l'époque, elle avait, parce qu'elle était toute seule, notre petite fille, elle avait un parent. Ici, l'état d'esprit, il y a une... Enfin, j'ai une vision très biaisée, hein, parce que moi, j'adore ce cabinet, j'adore les gens. Donc,
mais parler de votre vision de ce cabinet, c'est la seule chose qui m'intéresse.
Voilà. j'ai jamais été embêtée de... où tu es, est-ce que tu as pointé à la machine le matin, à quelle heure tu as pointé, comment tu as pointé, est-ce que le soir tu as pointé à minuit ou tu as pointé à 19h. Tant que le travail était fait, que je le fasse chez moi, au bureau, dans un café, ça n'avait aucune espèce d'importance. Donc le fait que je rentre chez moi le soir, que je couche... que je couche mon bébé n'a jamais posé la moindre difficulté. Donc et j'espère vraiment que mes collaborateurs ont la même perception les concernant. Voilà, j'ai juste besoin de pouvoir les joindre et que je les joigne par mail, par SMS, par je sais pas quoi, WhatsApp, quel que soit l'endroit où ils sont, ça n'a aucune espèce d'importance. Mmh. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Oui, ça suppose de la gymnastique parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'hommes. Donc pour eux, le fait qu'il y ait une conférence téléphonique à 7h, à 20h, au milieu du repas à 20h, c'est sûr que c'est pas qu'ils veulent pas l'entendre, c'est que ça monte pas au cerveau, donc c'est pas forcément évident.
Et alors du coup, comment est-ce que vous avez fait ? Parce qu'un soir sur deux, certes, ça c'est votre organisation, mais dans le cadre d'une équipe et dans le cadre de dossiers...
C'est pas évident. Alors, je suis pas un modèle dans ce genre-là. Et j'ai toujours eu tendance, c'est vrai, vous dire je suis une superwoman et j'ai dit aux partenaires et aux clients non, je suis pas dispo de 19h30 à 21h, j'avoue, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça et en fonction de ces contraintes-là qui pouvaient arriver, je m'organisais avec mon mari pour que si c'était son soir, et ben si c'était mon soir et que ça tombait mal, on s'alterne. J'avoue que vous dire que j'étais une superwoman et que j'ai
non,
dit
non mais c'est vraiment pas l'objectif du podcast. Hein. C'est non, bien aussi de
voilà. Je m'adaptais et j'avais un mari. Que j'ai toujours suffisamment gentil et souple pour dire ok, tu peux pas, c'est mon tour et puis demain c'est toi par contre. Voilà, mmh. C'est organisé comme ça.
Ouais. Et est-ce que peut-être en grandissant et en évoluant, vous avez peut-être plus réussi à peut-être poser des limites ou
non? Non. Non. De ce côté-là, ce serait peut-être des choses à faire progresser, je pense.
Ouais.
À faire progresser, mais je reconnais que j'ai beaucoup de mal à dire non aux clients. Beaucoup de mal. Je pourrais, hein, parce que ce soit à 19h30 ou 21h, en réalité, ça change pas grand-chose. Mais je reconnais que j'ai encore pas mal de mal à dire aux clients non. Quand vraiment je peux pas, je le fais. Mais je dis jamais pourquoi. Donc, vous voyez, hein, j'assume pas totalement non plus.
Ont-ils vraiment besoin de savoir pourquoi ?
Non, parce que c'est aussi ma vie, quoi. C'est ma vie.
Ça pourrait bien être un autre dossier ?
Oui, ça pourrait. Exact. Non, mais voilà, c'est ma vie. Mais je reconnais que le dire c'est ma vie, non, je suis indisponible, je sais pas encore faire. Et après, je considère, peut-être à tort, hein, mais je considère qu'on a un métier de pompier, d'urgentiste, et que, après, on est un métier de prestataire, mais néanmoins, on est, on coûte très cher, très cher. Donc, il y a un minimum de disponibilité, voilà. On peut pas avoir tout et son contraire, dire, on coûte très cher, on vous demande de nous payer et par contre c'est moi qui impose ma loi. Voilà, il y a un équilibre à trouver.
Mmh. Et donc à ce moment-là, quand vous, enfin dans vos, enfin voilà, quatrième, cinquième, sixième année, comment vous, enfin voilà, comment se passe, parce que là on a parlé de la montée en compétences par rapport au fait que vous deveniez jeune maman, mmh. Et donc votre organisation et voilà. Et puis ensuite, juste l'évolution plus cette fois comme professionnelle, enfin même si Il n'y a pas vraiment de différence entre professionnel et personnel, mais comment vous évoluez?
Comment j'évolue? La question est super vaste.
Qu'est-ce que vous avez cherché à faire, en fait?
Qu'est-ce que j'ai cherché à faire? Je voulais devenir associée. C'était mon petit Mickey à moi, mon lapin à moi. Je voulais devenir associée. Donc j'ai tout fait pour devenir associée.
Et ça veut dire quoi, j'ai tout fait pour devenir associée?
Ah bah il y a quand même des sacrifices quand même, hein. Sacrifices de sommeil, de le parfois des week-ends, pas systématiquement, mais quand même parfois des week-ends. Et puis les associés ici à l'époque, alors la géographie a un peu changé, mais celui qui est aujourd'hui mon associé, c'était celui avec lequel j'ai le plus appris. J'ai pris à chaque fois qu'il y avait un peu d'espace, je prenais cet espace. C'est-à-dire que lui était et il est toujours dans la stratégie, dans la négociation, mais si je pouvais gagner de l'espace pour être visible vis-à-vis du client et on va dire pour occuper le quotidien du client et mon associé à l'époque étant le stratège mais avec sa partie stratégie, moi j'occupais le reste. Voilà. Donc c'était le client dans le travail au quotidien et c'est moi qui dois connaître. Mmh. Voilà. Donc, j'ai occupé le plus possible l'espace, attiré le plus possible l'attention du client, acquérir de plus en plus de compétences dans des matières qui sont annexes à la mienne, mais qui sont indispensables en financement et en M&A. En tout cas, à l'aune de ce qui était utile dans mes deals restructuring à moi. Donc, c'est monter en compétences, monter en autonomie et occuper l'espace.
Mmh. Et vous avez le souvenir, par exemple, d'une situation de si on devait concrétiser, donner un exemple de ce que c'est que d'occuper l'espace. Mmh. Vous avez un exemple?
Ah,
ou plusieurs?
Oui. Alors, j'en ai un surtout où j'ai été, terrorisée parce que j'étais toute seule où en fait le dossier était venu dans le bureau de l'un des associés sur la table de l'un des associés M&A. Il a fait le premier call pour les premières directions et après il m'a dit c'est pour toi et je disparais complètement. Donc là c'est le premier dossier où j'ai été absolument toute seule de A à Z dans l'interaction avec le client. Alors je me souviens en plus c'était des Ukrainiens qui parlaient un anglais, mais je comprenais rien à ce qu'ils pouvaient dire. C'était horrible parce que il fallait que je une concentration maximale pour pouvoir comprendre. Quand vous êtes pour la première fois absolument tout seul, vous savez qu'il y a personne, il n'y a pas de filet, que vous entendez une langue. Alors l'anglais je maîtrisais, mais parler par un Ukrainien, bonjour. Le tout sur une société cotée où ça supposait de manager des équipes. Il y avait une gestion toute seule du client, à nouveau sur la stratégie et sur la mise en œuvre. La gestion d'équipes M&A, parce qu'il y avait des aspects cotés, et des équipes financement. Et la gestion de toute la négociation avec les confrères, ça c'était un vrai challenge. Je me souviens comme un dossier qui m'a vraiment... fait basculer dans le sens où c'était la première fois que j'étais toute seule et où j'ai pu vraiment toute seule et où j'ai pu j'ai su que je savais faire donc que ça allait quoi, que ça irait.
Donc la terreur et ensuite la confiance.
La terreur, oui, c'est vous êtes on vous largue au milieu de l'océan et puis on vous dit maintenant débrouille-toi. Quand vous voyez que vous nagez, et alors plus ou moins bien, j'imagine que c'était pas très artistique, hein, mais finalement le dossier sort, le client est très content et il paye votre facture rubis sur l'ongle, parce que ça c'est un bon exemple, un bon signal, pardon, quand le client paye, alors que à nouveau c'est tout ça est très cher. et qui paye sans compter, bah, ça veut dire qu'il est très content. Et qui ne discute pas une virgule, ça veut dire qu'il est très content. Donc voilà, ça veut dire, bah ouais, je sais nager. Donc ça va.
Et donc vous avez dit occuper l'espace, monter en compétences, et vous avez parlé d'un troisième point. J'ai oublié.
Management.
Ouais, peut-être.
Je sais pas.
Mais justement, puisque vous le mettez sur la table, management, est-ce que vous aviez une appétence particulière? Est-ce que...
Alors, ça, j'ai des gros progrès à faire. Des gros progrès à faire parce que c'est un truc qu'on apprend nulle part et qui est pourtant essentiel. Essentiel. Et en plus, c'est un métier qui est par nature très individualiste et très, ouais, très individualiste. Donc, c'est très difficile, alors que pourtant, c'est essentiel de savoir valoriser les gens, de savoir les faire progresser, parce qu'on n'avance jamais seul, nulle part. Mais c'est très difficile du jour au lendemain. En plus, quand vous êtes dans cette course à l'association, alors ça ne doit pas se jouer au détriment des autres. Il ne s'agit pas de tuer qui que ce soit. Mais néanmoins, c'est quand même très solitaire. Voilà, on tue personne, mais on avance sur sa route. Et quand on doit... quand on passe de l'autre côté et on se dit, mais en fait, je suis associée, mais tout seul, je suis rien. Il y a des équipes, des gens qui, sans lesquels le dossier ne se fait pas. Pour apprendre à les, voilà, à nouveau, à les faire progresser, à leur donner le bon degré d'autonomie. Parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes plus fort que tout le monde et que machin, alors que c'est faux. Ça, c'est pas facile. C'est un gros défi. Ça fait partie de mes défis actuels.
Et du coup, qui est venu après un certain temps de...
En tant qu'associée.
Ouais.
En tant qu'associée.
Ouais. Mais c'est fou parce qu'avant d'être associée, je suppose que vous avez géré des équipes.
J'ai géré des équipes, mais je n'en étais pas responsable. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des associés au-dessus de moi dont, à qui la responsabilité incombait. Donc, de fait, je le faisais, mais... dans la présentation, ça n'était pas moi qui en était responsable. Donc, c'était différent. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, s'il y a quelqu'un qui bute, qui progresse pas, c'est ma responsabilité directement. Donc voilà.
Non, mais ça m'embête parce que quand même, ce troisième point, il me plaisait, mais c'est pas grave.
Vous allez le retrouver?
Ouais, je le retrouverai. Je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport à cette... en fait, c'est très stratège de se dire, occuper l'espace, trouver la manière dont, en fait, vous pouviez répondre au mieux aux besoins de la personne qui allait vous faire monter. Enfin, encore une fois, ça paraît être des évidences, mais c'est pas une évidence pour tout le monde, en fait, de comprendre que c'est finalement ça qu'on attend de soi.
C'est le premier client, hein, ouais. C'est l'associé.
Ouais. Et vous avez commencé par être counsel, je suppose.
J'ai été nommée counsel en janvier 2016. En novembre 2015. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais être associée. ça m'intéressait pas d'être comme ça. Je voulais pas être counsel, donc j'ai cherché ailleurs. Je suis partie de chez Wile. J'ai commencé à chercher l'instant même où on m'a dit que j'étais counsel, j'ai commencé à chercher ailleurs. Et pourtant, c'était un crève-cœur, hein, parce que je.
Mais oui, parce que vous aimez cette maison.
J'adore cette maison, mais je voulais être associée.
Mais alors, ça veut dire que est-ce que ici counsel c'était un passage obligatoire vers l'association?
Non. À l'époque, non.
À l'époque, non.
Aujourd'hui, oui.
Ok.
Aujourd'hui, oui.
Et donc, qu'est-ce que ça signifiait, counsel?
Ça signifiait qu'il y avait déjà trois associés et que counsel était quelque part une récompense par rapport aux efforts, par rapport à plein de choses, mais que le signal était très fort de « ce sera dur de te faire monter associé avec déjà trois associés existants ». Très compétent, voilà. Et donc, c'était gagne du temps. Et donc voilà. De toute façon, ça, c'est vraiment quelque chose que... c'est un message très, très, très fort que je veux faire passer aux plus jeunes. Quand on n'est pas bien dans une situation, que ça ne nous va pas, il ne faut pas persévérer. Quand on sent que ça ne va pas, il faut partir.
Ouais. Mais donc, quand... parce que je suppose qu'il y a eu des discussions autour de ce statut de counsel. Mmh, mmh. Vous aviez dit, mais c'est pas ce que je veux.
Ouais, oui, 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 oui.
Donc ils étaient 100% au courant, quoi.
Ils étaient 100% au courant, mais après, c'est une firme internationale. Mmh. C'est pas Paris participe au processus de décision, mais ensuite, c'est un cabinet international où il y a un management committee qui a une vision globale sur tous les bureaux, qui a une vision... plus détaché de la personne et plus économique, et qui a dit bah, aujourd'hui il y a déjà 3 associés, c'est pas logique, sachant que la troisième elle venait de passer associée l'année d'avant, ça n'est pas logique qu'il y ait une quatrième personne qui arrive tout de suite associée, donc dont acte, elle veut passer associée, mais ça marche pas. Mm-mm. Économiquement ça marche pas, et donc les raisons elles étaient elles se comprenaient, quoi. Il y avait, elles étaient pas elles n'étaient pas discutables, mais à l'inverse, je n'en avais aucune maîtrise. Parce que c'est pas, elle n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela, c'est juste les economics globaux, parisiens, enfin globaux et parisiens sont tels qu'il n'est pas légitime d'avoir une quatrième associée. Donc c'était en dehors de ma maîtrise. J'aurais pu travailler 40 000 heures de plus, ça n'aurait rien fait.
Donc. Donc, vous avez repris la maîtrise en disant, et du coup, je m'en vais.
Bah oui. C'est pas une histoire de je suis plus forte, je suis moins forte. C'est juste, il faut être bien là où on est. Voilà. Quand on n'est pas bien, on s'en va. On ne cherche pas à dire qu'on va faire changer les gens. Non, les gens ne changent pas. C'est nous qui devons changer. C'est comme ça.
Et donc, vous êtes partie comment? Pourquoi? Enfin, pourquoi? Je le comprends, mais comment? Ouais.
Comment comment
Parce que, comme vous aviez dit, le move depuis Linklaters jusqu'à Veil, c'était une envie d'aller quelque part. Mm-hmm. Donc là, c'était un peu moins le cas, je suppose, parce que votre envie, c'était quand même d'être ici.
D'être de rester ici.
Ouais. Ouais. Et donc, comment vous avez créé ça?
En fait, j'ai vu beaucoup de cabinets. Beaucoup de cabinets. Et naturellement, je me suis portée vers des cabinets anglo-saxons parce que c'était mon histoire. Et en fait, j'ai rencontré un cabinet français qui était... être jeune associé, quand on part de rien, parce que mon client, à nouveau, c'était mon associé. J'avais pas de client ou quasiment pas de client. Si vous allez avec des boulets aux pieds, des contraintes, des exigences de rentabilité hyper fortes, aucune souplesse dans les honoraires que vous fixez, avec une pression très forte, quel que soit le domaine, je me suis dit que ça pouvait pas marcher. Donc, je suis allée dans un cabinet dans lequel on m'a dit, écoute, t'as le titre d'associé, tu crées ta pratique parce qu'eux n'avaient pas cette pratique-là. T'as carte blanche et tu fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. Tant que ça marche, on t'embêtera pas sur des questions de rentabilité, de write-off, d'abandon potentiel. Tant que ça marche, c'est tout ce qui compte. Et voilà. Donc je suis allée dans le cabinet qui me donnait le plus de liberté possible et qui avait un réseau suffisamment fort pour m'apporter eux aussi des clients.
Mmh. Donc ça a été aussi une cartographie de ne pas vous mettre dans une situation où vous alliez être en difficulté. C'est-à-dire, il y a ce cabinet qui m'offre quelque chose, c'est hyper reluisant et ça brille beaucoup. Mais en fait, concrètement, là, j'ai pas les armes, j'ai pas les ressources où ce serait extrêmement difficile de remplir le contrat. Donc je vais me mettre en difficulté et plutôt que ça... aller dans un endroit où, au contraire, je vais pouvoir exploiter mes forces et...
Exactement.
Et donc, comment ça se passe ?
C'était super. C'était super parce que c'est une liberté totale, puis c'est un autre aspect du métier où vous prenez votre valise avec c'est le vendeur de la redoute qui prend ses savonnettes et qui va vendre ses savonnettes en disant qu'elles sentent meilleures que les savonnettes des Trois Suisses. Enfin, voilà, il y a tout un pan du métier qu'on ne connaît pas, de se vendre, de dire pourquoi on est, d'essayer de dire pourquoi on est différent des autres, de créer un intuitu personnel avec des gens, de réfléchir à qui on pourrait aller voir. Enfin, il y a les clients de Weil étaient pour une partie inaccessibles. Si j'étais allée les voir, jamais ils auraient quitté Weil. Enfin, voilà, c'était pas possible. Donc, il faut réfléchir à qui est-ce qu'on va aller voir, qui on va voir, pardon. Comment on va les voir, qu'est-ce qu'on leur dit. Donc c'était ça qui était marrant. Puis le
Et
fait
alors
d'être libre, c'est
vous,
cool.
ouais, mais alors vous, les réponses à ces questions, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous dis, qu'est-ce qui distinguait vos savonnettes des autres?
Ça, c'est la question la plus dure, hein.
Ben oui, c'est pour ça que je vous la pose.
C'est vraiment la question la plus dure. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le côté féminin. Il faut jouer à nouveau de ses forces. Être une femme dans mon milieu, il y a beaucoup d'hommes très talentueux, mais où l'orgueil, un peu de cinéma, un peu de cha-cha-cha, enfin beaucoup de volubilité que les femmes n'ont pas. Et les femmes sont souvent beaucoup plus dans l'efficacité, le dialogue, le bon. Quels sont tes points? Ok, voilà mes points. On va essayer de trouver un terrain commun sur ces points. Les hommes sont beaucoup plus dans le spectacle, dans le je suis plus fort que toi. Non, c'est moi qui suis plus fort que toi.
Je sais tout
Donc,
faire, je
je
peux
sais tout
faire,
faire, je
ça
suis
je
plus
gère.
fort, je suis
Ouais.
plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Donc le fait de vendre sa féminité. Est un vrai atout. Le fait de vendre aussi le côté entrepreneurial et j'ai pas peur, ça peut marcher, pas marcher, mais j'ai pas peur. Je dis ni que je suis la plus forte ni la moins forte, rien, juste j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai envie. C'est un discours aussi qui attire. Voilà, on n'a pas de marque derrière soi, on n'a pas une armée de stars, juste j'ai pas peur. Ça plaît. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et le côté aussi, le côté français permettait aussi d'attirer des cabinets. J'ai eu beaucoup, beaucoup de clients en fait en cabinet parce que. Un autre cabinet ne va jamais en fait dire bah j'ai pas de pratique restructuring, je vais demander à Wild Gottschall de les aider. C'est impossible. Vous n'allez pas demander à un concurrent direct sur vos pratiques M&A de vous aider sur une autre pratique qu'ils n'ont pas. Ça marche pas. En revanche, vous êtes un cabinet anglo-saxon, vous n'avez pas de restructuring et de faire appel au cabinet auquel moi j'appartenais, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de concurrence. J'ai beaucoup, beaucoup de clients avocats en fait. Ouais.
Donc concrètement, votre discours, c'était quoi quand vous alliez voir donc je comprends que vous aviez eu deux cibles.
Ouais.
Vous aviez ciblé donc comme vous dites les cabinets qui peuvent avoir besoin de sous-traiter des dossiers ou
Ouais.
de passer un dossier parce que ils ont pas de pratique et donc voilà. Et l'autre cible qui était donc des boîtes
Ouais.
directement, bien évidemment pas les boîtes qui étaient que vous connaissiez depuis votre expérience d'ici parce que trop attaché à cette marque et à ce cabinet. Mais votre discours, si vous vous souvenez de vos premiers, un peu vos premiers pitchs pour vous-même, comment vous aviez présenté les choses?
En fait, j'ai ah oui, pardon. Et le dernier aspect aussi, mais qui est complémentaire par rapport à la féminité, mon discours, c'était que cette matière doit se transactionnaliser. Je m'explique. On a une vision, en tout cas les corporates ont une vision très très, comment, un peu sulfureuse de notre milieu, en disant c'est un tout petit milieu, c'est un milieu de starlettes, un milieu de beaux parleurs, un milieu où ils font des petits deals entre amis parce que c'est tout petit. Et moi, mon message était de me démarquer, et d'ailleurs ça l'est toujours, de me démarquer de ça et de dire, je ne fais pas des deals en fonction de la personne qui est en face de moi, en fonction de c'est mon copain, pas mon copain, ma copine, fais des brunchs avec lui dimanche midi, je fais des deals pour défendre mes clients. Donc mon discours, c'était ça, c'est je suis une femme, donc il n'y a pas d'histoire d'orgueil. Je veux une pratique qui est transactionnalisée, qui n'est pas dans le cinéma, dans les copains, etc. Et je ne vous fais pas concurrence sur d'autres métiers. Et donc, mes clients, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidée dans ce milieu parce qu'ils avaient besoin d'une bonne professionnelle avec moins de grosses têtes, des cabinets, et la base de clientèle que j'avais quand même développée ici. Via, à nouveau, quand vous occupez l'espace et que le client il finit par vous connaître, c'était moi qui connaissais, quoi. Voilà.
Donc quand même, vous aviez des clients qui venaient un peu d'ici.
Ouais.
Ouais. Et en fait,
Donc,
moi, ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment mis l'accent sur la compétence, la compétence, la compétence.
ouais. Ouais.
Et les deals, ils seront faits. Voilà, parce que c'est ce qui doit se faire par rapport à votre dossier et la situation qu'on a, et pas parce que mon copain, mon truc, mon machin.
Exactement.
Et pareil sur le. Et ça a bien pris.
Ouais.
Bah non, mais c'est
Ouais,
une
ouais.
question.
Non, 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 mais dès la première année, ça a super, super bien marché. Très, 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 très bien marché.
J'ai quand même une question,
Ouais.
pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça a été difficile de démarcher pour de la sous-traitance d'autres cabinets? Non.
Pour moi?
Ouais.
En effet.
Donc là, vraiment, bah alors c'est un petit milieu, comme vous avez dit, donc je suppose que vous connaissiez pas mal des personnes. Vous leur avez dit, voilà, je m'associe dans tel cabinet, je monte une pratique. Si vous avez des dossiers, tel type de dossier, j'en sais rien, non, voilà, avec plaisir
Pour les traiter?
pour les traiter,
Bien sûr.
en toute simplicité.
Ouais.
Ok, je le
Non mais.
souligne pour encore une fois pour nos auditeurs que ça leur donne des idées.
Non mais voilà, il faut. Quand on commence, et même pour des très très gros clients, quand ils vous connaissent pas, ils vont pas vous donner l'opération stratégique, stratosphérique. Ils vont vous donner des petites choses. Et quand vous allez leur montrer que déjà il faut mettre le pied dans la porte. Une fois que vous l'avez mis, que vous montrez que vous êtes dispo, compétent, que vous facturez au juste prix, et que quand c'est une petite opération, vous facturez pas 500 000 euros, et quand c'est une grosse, vous savez, voilà, vous ajustez, et que les gens ont confiance en vous. Après, au fur et à mesure, vous montez en gamme. Donc, oui, il faut commencer par petit. Voilà. Enfin, y a personne qui commence. C'est un leurre de croire qu'on commence star international à 35 ans, en se disant que boîte du CAC 40 vont nous confier leurs opérations les plus stratégiques. C'est pas vrai. On commence petit, et au fur et à mesure, on grandit.
Et vous avez parlé justement du rapport à l'argent. Du coup, là, vous aviez la main. Est-ce que vous aviez la main déjà un peu chez Wild sur la facturation?
Ouais.
Ouais.
Il y a
Vous
une, il y
aviez
a une...
déjà été formé au rapport à la facturation et...
Oui, alors j'avais un associé qui est toujours le même d'ailleurs, qui n'a pas changé, qui déteste facturer. Il n'aime pas, et éducation, tout ça, il n'aime pas. Donc tout l'aspect facturation, c'était moi qui le gérais. Donc ça ne m'a jamais posé le moindre problème, puisque c'est lui qui m'avait confié. Ou plutôt, c'est moi qui voyais que ça traînait, donc c'est moi qui lui ai dit, écoute. Pareil, j'occupais l'espace.
Ah, mais oui, c'est super, par exemple, de lire ça.
Ouais,
c'est encore un exemple de ce que c'est que d'occuper l'espace.
Exactement, c'est moi qui ai tout. T'inquiète, je gère. Voilà, puis ça apprend des choses, ça apprend aussi à dire, bon, bah, voilà. Et puis, ça m'était d'autant plus facile que c'était moi et les équipes qui faisaient le travail. Donc, le client pouvait pas dire, je vous ai pas vu, vous avez pas fait ceci. Bah, si, je le sais, j'étais là. Donc. Voilà, puis ça fait partie du métier.
Et ça vous a été difficile ?
Non, pas du tout.
Pour le coup, c'est pas trop un sujet.
Non. Par contre, je ne saurais jamais faire des. Faut pas que je le dise.
Faut pas que je le dise. Personne n'écoute Fleur d'avocat, je vous rassure.
Non, c'est pas vrai. J'ai du mal à faire des markups. Je trouve, c'est-à-dire à facturer beaucoup plus que nos temps passés. J'ai tendance à me dire à évaluer nos fees aussi en fonction de nos prestations, à les adapter aussi en fonction de la taille de l'entreprise le plus possible, parce que une facture de 500 000 euros. Elle n'est pas aussi douloureuse sur une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, une boîte qui en fait 100 millions. Quoi. C'est pas du tout le même impact. Pourtant, le travail fait dans les deux peut être parfois strictement équivalent. Hein. Mmh. Le même temps passé, la même rigueur, la même. Mais voilà. Donc, j'ai toujours tendance à étudier le montant à l'aune aussi de la capacité financière. Parce que si on aide l'entreprise à passer le cap, si c'est pour l'assassiner ensuite en horaire...
Ben c'est ce que j'allais dire. Enfin, sans... Déjà, d'une part, est-ce que c'est pas normal aussi de aussi s'adapter à son client ? Mais au-delà de ça, pas intrinsèquement par rapport à ce que vous faites, je trouve que ça a une valeur de réfléchir comme ça, parce que l'idée c'est quand même que ce client, si vous faites du restructuring, c'est quand même pour que le client aille mieux derrière. Donc ouais, comme vous dites, c'est après, on a tout fait pour que ça puisse flotter, puis en fait, on envoie une facture et du coup ça recoule. Donc il a à nouveau besoin de nous.
Oui, ça n'a aucun
sens. C'est quand même un peu.
Ça n'a aucun sens.
Ouais.
C'est un vrai sujet dans nos dossiers, surtout que dans la documentation de crédit, alors c'est toute une pratique de place, donc je vais pas la révolutionner, hein, mais alors que le client, la société, elle paye son conseil, c'est logique, mais elle paye aussi le conseil des créanciers. Donc à la fin, l'addition totale, c'est pour lui. Et après, les avocats qui conseillent les créanciers, ils disent moi j'ai travaillé, j'ai fait le travail, j'ai conseillé mes clients, ce qui est vrai. Mais quand vous avez les honoraires de votre conseil et de tous les gens autour de la table, et que vous avez 10, 15, 20, 30 personnes autour de la table, ça fait cher. Mmh. C'est un vrai sujet. À la fois, les avocats ne mentent pas, ils ont fait le travail, mais à la fois, l'addition est lourde. C'est un vrai problème.
Mmh. Et donc, pour en revenir à votre expérience comme associée dans cet autre cabinet, vous dites que ça se passe bien, que dès la première année, ça prend.
Mmh.
Ouais.
Ouais. Ça prend après. Les gens, voilà, les quand ici il y a une opportunité. Enfin, je suis partie d'ici, c'est un crève-cœur. Hein. La décision, elle a été très, très, très difficile. Hein. Il a fallu que je me pousse moi-même, hein, parce que sinon, je n'y serais jamais arrivée. Mais quand il y a eu une opportunité à nouveau ici, je suis rentrée chez moi.
C'était au bout de combien de temps ?
Alors, je suis arrivée en septembre 2016 dans mon précédent cabinet et je suis partie en mai 2019. Donc,
3 ans.
Ouais, un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi.
Ouais, ouais. Et donc, pendant ces 2 ans et demi, est-ce que vous avez développé votre pratique et ça se passe bien. Des souvenirs quand même d'une difficulté ou d'un truc qui peut-être vous a amené à repenser certaines choses ou...
La vie d'associé.
Ouais.
La vie d'associé. C'était des gens, enfin vraiment, ce sont des gens de très grande qualité, hein, mais qui avaient leur vie, leur clientèle, qui étaient issus de cabinets français avec une très très forte autonomie, ce qui est très bien, hein, mais avec un intuitu personné trop faible à mon goût. Ça, c'était la grande difficulté pour moi.
Un intuitu personné trop faible par rapport à... Entre associés. Donc plutôt le côté... vous êtes plutôt sur l'affectio sociétatis finalement. Ouais. Il y avait pas trop de choses communes. Alors que ça, vous avez l'impression que c'était très fort chez...
Hyper fort.
C'est pour ça que vous en parlez comme d'une maison et comme...
Ah ouais, très, ouais. Hyper fort. Enfin, je l'avais un peu décelé quand j'étais collaboratrice. Mais là, de l'autre côté, enfin, le respect entre associés, la solidarité entre associés, le fait que... on ne se laisse pas tomber, que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une aide, les gens sont très très présents. Enfin, c'est... Après, peut-être qu'il y a ça ailleurs, hein, mais ici, c'est extrêmement fort.
C'est fou le nombre de cabinets quand même qui n'ont pas vraiment d'affectio sociétatis, quoi, qui sont des réunions d'individualité.
On partage une photocopieuse et un local.
Ouais, c'est dingue. Et une marque, mais du coup, la question quand même de ce qu'il y a derrière la marque se pose. Si,
et... C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel et c'est... puis même pour le bien-être au quotidien. Enfin, le fait de bien aimer les gens, de ne pas vous sentir seul, quoi. C'est horrible de sentir seul. C'est un métier où il y a plein de difficultés. Il faut, vous avez un coup de mou, un coup de blues, une besoin de réfléchir, le fait d'être à deux, mais vous réfléchissez 200 fois mieux, quoi.
Et donc, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes sentie seule dans ce précédent cabinet, une ou plusieurs reprises. Comment vous avez géré cette solitude ?
Je l'ai beaucoup apprécié au départ parce que à nouveau c'était cette liberté totale qui était vraiment super. Ensuite elle m'a pesé. Bah on vit avec quoi. On vit avec et après on se dit bah c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je veux. Donc à nouveau. Hein, quand ça ne va pas, bah on se dit bon bah il faut prendre des décisions.
Et c'est ce moment de prendre la décision, c'est arrivé quand il y a eu une nouvelle opportunité chez...
Non, c'était déjà existant avant.
Ouais, c'était déjà. Mais est-ce que par exemple vous avez recréé une famille indépendamment de ce cabinet de manière informelle? Vous parlez du besoin d'échanger, de... Enfin, ne serait-ce que ça, intellectuellement ouais. parlant, de pouvoir échanger sur un dossier parce qu'on se pose des questions, etc. Est-ce que ce genre de soutien, vous êtes allé le chercher ailleurs?
Alors, j'ai un associé dans ce cabinet avec lequel j'avais une entente très forte et avec qui j'ai pu commencer à développer ça. Donc, à développer ce... Ouais, à développer ce soutien. Et sinon, je l'ai développé beaucoup avec, alors pas forcément des confrères externes, mais plus avec des gens avec lesquels je travaillais, que ce soit des administrateurs judiciaires, enfin de créer des liens de confiance, d'échanges. Mais effectivement, voilà, donc c'est avec un associé très fort, non pas que les autres ne voulaient pas, mais voilà, c'est l'humain, hein, ça s'explique pas. Et avec lui, j'ai développé des... Enfin voilà, on s'appréciait beaucoup mutuellement. Et effectivement, je l'ai développé pas mal avec des gens avec lesquels j'interagissais dans mes dossiers au quotidien, avec quelques personnes.
Et l'opportunité de revenir, c'est le cabinet qui est revenu vous chercher?
Alors moi, c'est ce que je dis, disent que non. En fait, c'est un mélange des deux. Moi, j'avais fait ce cheminement-là de dire je veux plus de collectifs, beaucoup plus de collectifs. Donc, j'avais regardé à l'extérieur. Et eux, à ce moment-là, la géographie des associés a beaucoup changé, puisqu'ils étaient trois au moment où je suis partie, trois associés dans ma pratique. Et quand je cherchais, ils n'étaient plus qu'un. Où ils étaient sur le point de n'être plus qu'un. Donc l'espace qui n'existait pas au moment où je suis partie se recréait. Donc c'est mon associé actuel qui est venu me voir en disant bah voilà, j'aimerais bien que ce serait bien. Hein. Moi je lui ai dit écoute, je réfléchis, j'ai entamé une réflexion personnelle où j'ai envie de plus de collectif, donc bah fais-moi signe. Ça c'était en janvier. Et pendant 4 mois, il ne s'est rien passé. C'était début janvier, pendant 4 mois, il ne s'est rien passé. Et quand il est revenu me voir fin mars, il m'a dit bah, « c'est toujours valable, etc. » Je lui ai dit « écoute, dépêche-toi parce que je suis sur le point d'accepter quelque chose d'autre. » Donc, soit c'est maintenant, soit c'est plus jamais, c'est terminé. Et donc, j'ai passé l'association ici en 15 jours. Voilà, ça s'est fait en 15 jours. Je suis allée à Londres, New York, et le vote s'est fait en 2 jours.
L'autre cabinet, c'était quel type de proposition ?
Très collective aussi, très 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 collective. Des gens d'une immense qualité, que j'aimais bien, tant professionnellement que personnellement. Donc c'était très 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 attractif aussi, très très attractif. Et honnêtement, ce qui a fait basculer, c'est pas le professionnel, parce que c'est des gens de très grande qualité. Ce qui a fait basculer, c'était le lien que j'avais et que j'ai avec mon associé actuel, qui est, voilà, c'est mon mentor, c'est ma source d'inspiration, c'est mon havre de paix, il représente beaucoup de choses. Mm. Voilà. Donc entre eux, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Et quelqu'un qui est encore un cran au-dessus sur le plan humain, bah voilà, mon choix c'est vite fait.
Et donc, objectif atteint, j'ai envie de dire.
Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment.
Qu'est-ce qui vous inspire autant chez lui ?
Ah là là ! Ah,
c'est le moment de faire une déclaration d'amour.
Ouais, c'est ça, c'est je l'aime. Non, non, mais moi, j'ai besoin de gens Oui, ah mince, il va falloir qu'on parte peut-être. Ouais. J'ai besoin de gens intelligents. J'ai besoin d'être inspirée. Il est très intelligent. Il a beaucoup de recul. Il est hyper malin. Hyper, hyper malin. Il a toujours la bonne solution pour trouver au moment où les plus critiques. Et c'est un homme qui est à la fois très mystérieux, à la fois très généreux, à la fois très distant et très sensible. Enfin, il a voilà, il est très très attachant.
Mmh. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc comment est-ce que vous continuez d'apprendre ?
J'apprends.
Maintenant que vous avez atteint votre, maintenant c'est quoi qui vous drive, quoi ?
Maintenant, ce qui me drive, c'est manager mes équipes. Ça, c'est un vrai chantier. Les faire progresser, leur donner toujours envie. C'est développer des synergies avec mes associés et c'est aller chercher un autre type de clientèle.
Qu'est-ce que vous voulez comme clientèle ?
On vise de plus en plus des clientèles M&A. Enfin, ma clientèle historique, c'est une clientèle de private equity. On vise de plus en plus des corporate cotés. Voilà, donc c'est ces gens-là que j'essaye de viser. Et justement, le fait d'être une femme, le fait de ne pas en faire tout un pataquès, de ne pas être une starlette, le fait d'être en synergie avec mes associés, ça c'est quelque chose, je pense, qui me distingue. qui me distingue d'autres de mes confrères. Donc c'est nouvelle clientèle, synergie avec les bureaux anglais et américains qui aujourd'hui doivent progresser, et gestion de mes équipes.
À part votre associé, est-ce que vous avez des sources d'inspiration ? Ou une source d'inspiration ?
Non, que mon associé.
Que votre associé.
Cet associé-là est... enfin, je suis très admirative de beaucoup de mes associés. Et peut-être mon père aussi. Ça, c'est papa. Ça. Voilà, mon père restera toujours quelqu'un... Enfin, est toujours quelqu'un de très, très important pour moi. Mmh.
Quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie, oh, c'est tout bête, ma dernière joie, c'est moi qui couche mon petit garçon, mon dernier, hier soir, et je lui souhaite bonne nuit. Il me dit, il a 2 ans, il vient de fêter ses 2 ans, et pendant quelques temps, à chaque fois qu'on le couchait, c'était compliqué, il pleurait, etc. Hier soir, je le couche, je lui dis bonne nuit. Ni bonne nuit, et voilà.
Avec un petit signe de la main.
Et voilà, petit signe de la main, et il se retourne, il prend son doudou et il se couche. Voilà, c'était ma dernière joie. Si simple.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Très grande sensibilité. Ouais, très grande sensibilité. Et beaucoup de... Enfin, un intérêt hyper fort pour mes clients. Enfin voilà, j'aime bien les gens. Voilà, j'aime bien les gens. Sensible, et j'aime bien les gens.
Merci beaucoup.
Merci à vous.